le lapin.
En aucune façon.
Vous n'entendez point le lapin?
Non.
Cabrescas! Sarsicram catalanus singularitaire nominativo. Ec musa la muse. Bonus bona bonum.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, on sait que le pape Benoît XVI a annoncé par le motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet dernier sa décision de permettre à un groupe de fidèles de demander que la messe soit célébrée dans leur paroisse selon le rite de Saint Pie V, c'est-à-dire en latin. Cette décision, qui a fait grand bruit, conduit à s'intéresser à l'histoire de l'usage du latin dans la longue durée en France et en Occident. Alors que ceux qui en défendent aujourd'hui la pérennité, qui souhaitent que son enseignement continue d'être largement proposé et encouragé, que ceux-là soient du côté du conservatisme et moins encore de la réaction, comme on disait autrefois. Mais en sens inverse, on s'abuserait si l'on croyait que le latin a connu au long des siècles, jusqu'au 19e, une domination incontestée. Bien au contraire, on discerne la permanence de controverses acharnées qui ont vu les défenseurs des langues vivantes et des disciplines scientifiques depuis très longtemps, développer avec une passion symétrique des arguments qui annoncent très précisément ceux d'aujourd'hui. Françoise Vaquet, mon invitée ce matin, directrice de recherche au CNRS, a consacré naguère un livre important à cette question, et avec elle, nous allons tâcher de dépasser les simplifications et les idées reçues qui dominent trop souvent la réflexion sur ce sujet. Un sujet qui s'élargit bientôt à la grande question de la structuration de la culture, et aussi entre le peuple et les élites, à des conceptions politiques et sociales dont l'actualité demeure tout à fait vivante. Mais pour revenir à mon point de départ, c'est-à-dire au latin d'église, vous n'échapperez pas à Georges Brassens, qui, sur un mode mi-sincère, mi-ironique, rejoint à l'avance le pape Benoît XVI.
Dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite nous envoûte, s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical, que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse Tintin. Sans le latin, pour le tenier du culte. À la saison printanière, suis ce bedeau sacristain. Sans le latin, faut buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent. La Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme.
Françoise Vaquet, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre de Georges Brassens, Tempête dans un bénitier, une chanson évidemment ultérieure au Concile de Vatican II, qui a introduit le français dans les églises pour les messes. Par-delà l'ironie que l'on connaît bien chez Brassens, une sorte d'anticléricalisme joyeux, on retrouve en même temps chez lui un homme de génération né dans l'entre-deux-guerres qui est profondément enraciné dans une certaine culture catholique française.
Tout à fait, et en plus cette chanson touche, je dirais, très juste, car il indique que depuis qu'avec la suppression du latin, il n'y aura plus de mystère magique, le rite va devenir anodin et le charme sera perdu. La religion catholique n'est pas une religion de mystère, mais pour des fidèles qui souvent n'avaient pas une grande culture ni théologique ni liturgique, le latin fonctionner comme une langue quelque peu mystérieuse, une langue qu'ils ne comprenaient pas pour la plupart, qu'ils ne maîtrisaient pas, mais qui avait une valeur religieuse. Et si vous le permettez, je vous en donnerai un exemple tout à fait éloquent.
Je vous en prie.
Tiré de l'ouvrage Le cheval d'orgueil de Jacques Elias.
Grand écrivain breton.
Voilà. Et Jacques Elias rappelle son enfance dans ce petit village de Bretagne où breton. Et le latin que l'on entendait à l'église était appelé breton du dimanche. Et Jacques Elias explique que durant toutes les parties de la liturgie qui se disaient en latin, les fidèles répondaient, participaient avec ferveur. Par contre, le moment du prône qui était en breton, là, les gens, d'une certaine façon, comme le dit Brassens, s'ennuyaient.
Se dissipaient.
Voilà. Donc on voit que ce latin qui n'était pas connu, qui n'était pas compris, était aussi une langue parfaitement, comment dire, appropriée d'une part, et d'autre part qui correspondait à une certaine fonction, une fonction un peu mystérieuse, la langue pour s'adresser à Dieu.
Françoise Vaquet, c'est une analyse d'historienne ou une prise de position personnelle ?
Non, c'est une analyse d'historienne appuyée sur des sources et des documents. Et si je peux encore ajouter un mot à ce sujet, des études qui ont été faites en Italie fin du 19e siècle, dans des campagnes toscanes, des paysans, des gens donc de très faible culture, ont été interrogés justement sur ce que voulaient dire ces mots latins qu'ils ne comprenaient pas. Et de fait, ils ne les comprenaient pas, mais ils se les étaient appropriés, ramenant sur une opération très commune, l'inconnu au connu. Et pour le Notre Père, qui se disait en latin, à un moment donné on dit « sanctificetur », et « sanctificetur » était devenu « santofiché », « saint fiché ». « Dona nobis odie » était devenu une certaine « dona bisodia ». Et à partir de ces éléments que les gens arrivent à identifier, ils racontaient une histoire qui aussi leur devenait familière.
Donc c'est une foi fondée sur l'ignorance et sur l'incompréhension de ce qu'on souhaitait leur dire.
D'une certaine façon, oui, mais cela n'empêche pas que pour ces gens-là, ce latin construisait un univers extrêmement familier et que la fin du latin a représenté une rupture peut-être plus forte que l'on a voulu le dire.
Et en même temps, on ne sait pas toujours que le latin d'église est relativement récent dans la liturgie, puisque ça date essentiellement du Concile de Trente, c'est-à-dire du XVIe siècle. Auparavant, il était assez peu présent.
C'est cela, et surtout le Concile de Trente a imposé le latin dans la liturgie et dans l'administration des sacrements, et ce principalement lorsque la mesure est prise en opposition à la réforme dont le culte est en langue vernaculaire. Et il y aura toujours dans l'Église catholique cette crainte liée à l'hétérodoxie.
Chère aux protestants, pour qui le contact avec la divinité ne devait pas être occulté par le secret, le mystère ou l'incompréhension de la langue.
Tout à fait. Mais lorsque, au moment du Concile de Trente, cette mesure a été prise, la mesure vise essentiellement à éviter tout risque d'hétérodoxie, cette crainte de schisme, etc. Mais peu à peu, c'est construit autour du latin, dans l'Église, autour de l'Église, tout un argumentaire qui n'est pas présent à Trente et qui part le latin de mille vertus. Une langue digne, donc la langue que l'on va communiquer avec Dieu, une langue digne et noble, une langue éternelle, et alors là, on ne s'arrête pas à la vérité historique, on dit que c'est même la langue des apôtres, et éventuellement.
Ah oui, alors on va jusque-là.
Oui, jusque-là, bien sûr. Et aussi une langue profondément religieuse et mystérieuse.
Nous allons voir toutes les vertus que les défenseurs du latin lui prêtent. Néanmoins, on peut observer que ce motu proprio, tiens, qu'est-ce que ça veut dire motu proprio? C'est du latin, ça?
Son propre mouvement.
Son propre mouvement. Que le latin s'est dégradé, finalement, dans sa qualité. J'observe qu'un professeur au Collège de France, Carlo Ossola, en étudiant de près la formulation même de ce motu proprio, a été frappé par une dégradation du latin de Benoît XVI par rapport, par exemple, à celui de Paul VI.
Oui, exactement. Il a montré que ce latin est d'une qualité assez sommaire, et que c'est plutôt de l'italien traduit qu'un beau latin classique.
Le concile de Vatican II, d'ailleurs, a été le dernier concile, et sera probablement le dernier concile à vue humaine, je ne sais pas si c'est vrai à vue divine, à vue humaine en tout cas, où on a pu encore parler latin, où le latin a servi de langue de communication entre les évêques venus de partout. Mais je m'étais trouvé par hasard à assister à une conférence de presse du porte-parole du concile, à une des sessions à Rome, j'avais été frappé par le côté vraiment un peu caricatural de ce latin. Je ne serais pas irrespectueux en disant que c'est du latin de cuisine, mais c'était du latin d'église assez dégradé. Je me rappelle en particulier un évêque qui s'adressait à l'autre en disant « Vehementer, meile vos contra opinionem tuam ». Je m'élève avec véhémence contre ton opinion.
Oui, le latin a été utilisé au Concile Vatican II, mais cela n'a pas été bien des difficultés. Pour lire un discours, disons que tout le monde y arrivait. Le problème, c'était quand il fallait répondre, improviser et discuter. Et même un théologien éminent comme le père Congar, qui était un des pères conciliaires, qui était conseiller théologique.
Hein, grande influence sur les
grande,
décisions
grande influence, de... dit lui-même qu'il a été emmené dans le marge du concile à faire une conférence et qu'il a eu quand même un certain nombre de problèmes, ne serait-ce quand il a fallu répondre dans la discussion. Et il y a un autre point que je voudrais souligner à ce propos, c'est que jouait également dans la compréhension des accents nationaux. Le latin n'est pas prononcé partout.
Alors, j'allais vous interroger là-dessus justement, parce que nous, dans mon temps, on prononçait ça de façon à la française.
Enfin, oui.
C'était, par exemple, on disait « omnes vulnérante ultima necat », ce qu'on voyait inscrit sur les cadrans solaires. Elle blesse toutes les heures et la dernière tue.
Voilà.
Alors ensuite, on nous a dit qu'il fallait dire « omnes vulnérante ultima necat ».
Alors disons que depuis Erasme, pour ne pas remonter plus tôt, on s'est préoccupé de donner au latin, d'avoir une prononciation uniforme pour le latin. La même prononciation partout, car ces prononciations différentes créent des confusions, ou moins quelques problèmes initiaux. Des essais ont été faits, mais comme on ne disposait pas de recherches philologiques extrêmement développées, rien n'aboutit, d'autant plus que chaque nation pensait avoir la meilleure des prononciations.
Oui, alors en Angleterre, j'ai entendu « omnes vulnerant ultima necat ».
Exactement. Oui. Bon. Et disons que dans les années...
On pourrait continuer, naturellement.
Exactement.
Dans les japonais, c'est très difficile à comprendre en latin.
Oui, comme en anglais. Et disons que dans les années 1960, dans un pays comme la France, on avait finalement... la prononciation du latin qui se faisait entendre dans l'Église, qui était la prononciation romaine. Il y avait ensuite une prononciation française qui se faisait entendre encore dans les écoles et commençait à se mettre en place la fameuse prononciation restituée qui en France n'est devenue officielle dans l'enseignement qu'en 1960, c'est-à-dire quand le latin commençait à s'acheminer vers sa fin dans l'école.
Oui, ça crée évidemment un fossé entre les générations. Je vous emmène un peu plus loin que 1960, Françoise Vaquer, en 1968, avec cette décision très importante qu'a prise le ministre de l'Éducation nationale, qui a suivi les événements, comme on dit, Edgar Faure, qui a décidé, c'était un choc, c'était un tournant important, je crois qu'on peut le dire, qu'on n'enseignerait plus le latin en sixième. Et voici la manière dont il défend sa réforme à la tribune de l'Assemblée nationale le 29 octobre 1968.
La phrase de Descartes est plus loin de nous que celle de Thackeray ou de Thomas Mann, plus loin sans doute que celle de Sénèque ou de Pline le Jeune. Pour apprendre le français, il faut d'abord apprendre le français, et naturellement, on peut aussi, si on apprend suffisamment de français, apprendre aussi du latin. Un autre argument énoncé en faveur du latin serait que le latin serait la seule ou la meilleure école de la logique et du raisonnement. J'aime beaucoup le latin, je l'ai prouvé, mais comment peut-on dire que l'école logique du latin est comparable à celle des mathématiques? Nous devons nous habituer à raisonner en termes d'enseignement de masse et non pas d'enseignement d'élite. Toutes les personnes douées peuvent apprendre n'importe quoi. Les sciences, le latin, les lettres, la philosophie, l'histoire, ça n'a aucune importance. La question est de savoir ce que nous produisons comme enseignement typique pour la grande masse, c'est-à-dire à quoi nous appelons les enfants du premier cycle. Et là, je ne méconnais pas du tout l'intérêt que peut avoir le latin, encore que je pense, moins que vous sans doute, qu'il ait un rôle si essentiel dans la société moderne, en tant que langue.
Voilà Edgar Faure, qui lui-même agrégé d'histoire du droit, il s'était présenté assez tardivement, et qui connaissait bien le latin, parce que l'histoire du droit romain est essentielle dans cette discipline. Edgar Faure a porté le fer dans ce domaine et a créé naturellement beaucoup de controverses sur la question de la place du latin. Et vous entendez ces arguments, il y a la notion des masses par rapport aux élites, la question de l'utilité logique par rapport aux mathématiques, et puis la question de savoir si pour apprendre le français, il faut d'abord apprendre le latin ou non. Voilà des problèmes essentiels qui sont posés sur la table.
Disons que la réforme Faure a été une réforme extrêmement brutale, puisque Edgar Faure n'a pas, d'une certaine façon, directement supprimé le latin, mais quelques jours avant le document sonore que nous avons entendu, avant ce débat au Parlement, il avait pris un arrêté fixant les programmes de la sixième et le latin n'y figurait plus. Cette réforme Faure repoussa le latin à la quatrième et introduisant des éléments de latin en cinquième. Et l'on peut dire que le latin, à partir donc de la mesure des années 69-70, n'a plus droit de cité dans les établissements scolaires avant la quatrième et le plus généralement comme une option.
Il y a eu bien sûr une baisse régulière des effectifs, même si aujourd'hui encore au collège, il y a 20% des élèves qui étudient le latin, la deuxième langue après l'anglais, alors que le grec a connu une chute dramatique et ne concerne que un peu plus de 2% des élèves. Mais au lycée, il n'y a que 6% des élèves qui apprennent le latin.
Oui, et il y a très peu d'enfants qui font une scolarité complète en latin, et c'est là peut-être le grand changement par rapport à la période précédente. La réforme Faure, puisque les enfants qui rentraient en classique, pour beaucoup d'entre eux, faisaient du latin jusqu'en terminale, c'est-à-dire faisaient 7 ans de latin.
Donc les trois dernières décennies, celles d'une rupture, d'un tournant qui évidemment a provoqué beaucoup de réflexions et avait ressurgi des arguments qui, on s'en aperçoit, datent souvent du XVIIIe siècle et que je voudrais que nous évoquions, si vous voulez bien, Françoise Vaquer, successivement. Il y a d'abord cet argument qu'on trouve développé dans un très beau livre qui est un livre qui traduit les résultats d'une mission qu'avait commandé Jack Lang quand il était en 2002 ministre de l'Éducation nationale, le livre de Pierre Judet de la Combe et de Heinz Wissmann qui s'appelle « L'avenir des langues, repenser les humanités ». Ils insistent beaucoup, notamment sur le fait que apprendre le latin, c'est aussi d'abord apprendre le français. On trouve déjà cet argument au XVIIIe siècle.
Cela s'explique pour diverses raisons, je voudrais insister simplement sur l'une d'entre elles. C'est que très longtemps, le français n'a pas été appris dans l'école, dans les collèges, dans les lycées, en tant que tel. Le français a été appris à partir du latin. Et même dans les années 1850-60, encore, on pratiquait un enseignement du français dit en doublure. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on étudiait une fable de La Fontaine, en même temps, on étudiait une fable de Phèdre, de sorte que le fabuliste français apparaissait comme dire une sorte de traducteur élégant de l'original latin. Donc là, vraiment, on voit très bien comment là, le latin servait à l'apprentissage du français. Je dois dire que cet argument du latin servant à apprendre la langue maternelle, disons, à l'apprendre de façon littéraire, cet argument se trouve dans tous les pays et aussi bien dans les pays de langue anglaise, de langue allemande.
Et déjà, vous le trouvez au XVIIIe siècle.
Oui.
Dans les grands débats qui ont opposé les tenants de la culture scientifique dominante et ceux de la culture littéraire.
Ces arguments que je pensais des arguments datant, disons, au mieux de la Troisième République, des arguments que l'on trouve énoncés au XVIIIe siècle. Et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et le premier pays où ils ont été énoncés, ce sont les anciennes colonies anglaises, donc les États-Unis, où des partisans d'un savoir pratique ont dit que pour construire une nation, finalement, le latin ne servait à rien, que l'on n'avait pas besoin de poètes, d'hommes de lettres, de Virgile et de Cicéron, mais de gens qui sachent empoigner le manche d'une charrue et, faire marcher le commerce.
Tout cela... Il y a eu une controverse extrêmement violente aux États-Unis, juste après l'indépendance.
Très fort. Et tout cela a amené naturellement en retour un certain nombre d'éléments pour justifier l'apprentissage du latin. Ces arguments qui sont l'aide du latin pour apprendre une autre langue, le latin aussi qui aide à développer des facultés ou l'intellect, le latin qui aide à développer le goût, mettant en contact avec les grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité, et ainsi que toute une valeur morale qui est accordée aussi au latin.
Voilà tous les arguments que vous venez d'évoquer, et que l'on retrouve d'ailleurs déjà comme opposant, par exemple, un peu plus tard, en 1837, à la Chambre des députés, l'astronome et mathématicien François Arago et Alphonse de Lamartine, à propos d'un projet de loi sur l'instruction secondaire. Arago est d'avis que les langues anciennes ne devaient point être enseignées dans les collèges communaux, c'est déjà Edgar Faure, mais seulement dans les écoles supérieures. Il réfutait l'argument suivant lequel elles seules donnaient la vraie culture de l'esprit et de l'âme. Et en face, Lamartine entre en lice et explique que un enseignement exclusivement spécial, scientifique et mathématique manifesterait l'application du matérialisme du XVIIIe siècle à l'éducation.
Là, les partisans du latin, pour défendre le latin, car chemin faisant, on introduisait malgré tout de plus en plus de sciences dans l'enseignement, ont développé l'argument que les sciences desséchaient et que le latin, au contraire, servait à maintenir, donnait un supplément d'âme. Cet argument a été employé contre les sciences, mais il a été aussi employé contre d'autres matérialismes. Par exemple, dans l'Italie fasciste, il y a toute une apologétique du latin, le latin servant à garder les esprits du marxisme. Et cet argument a survécu d'ailleurs à la chute du régime, et le latin a été parfois présenté, donc après Mussolini, comme le meilleur rempart, ou comme un des remparts contre le communisme.
D'ailleurs, il pouvait s'appuyer sur le fait que les bolcheviks arrivés au pouvoir ont presque aussitôt supprimé et éradiqué l'enseignement du latin, n'est-ce pas?
Exactement. Mais aussi, le latin valait contre d'autres matérialismes, tous les matérialismes liés aux techniques et aussi à ce que l'on a appelé dans les années, disons, 40-50, l'américanisation sommaire.
Alors on revient effectivement à cette question des États-Unis. Et pourtant, plus récemment, un certain nombre de défenseurs du latin ont pensé qu'on pouvait aller chercher du côté des anglo-saxons une sagesse qui défendait mieux peut-être le latin, paradoxalement, que les nations de langue romane. Écoutez, cela vous surprendra peut-être, écoutez ce propos de Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire, président du Sénégal, qui était très, très chagriné qu'Edgar Faure ait fait reculer le latin, malgré ses liens d'amitié avec celui-ci, et qui, au micro de France Inter, s'exprime de la sorte le 19 mai 1977.
Oui, je pense que cet abandon, ça a été la faiblesse de la dernière réforme, de la réforme d'Edgar Faure, que j'admire beaucoup, et dont je fus le secrétaire d'État à la présidence du Conseil en 1950. Il y a de très bonnes choses positives dans la réforme qui a modernisé l'enseignement en l'accordant à cette seconde partie du XXe siècle, mais je crois que l'erreur, ça a été le recul du latin. Et ce recul est en général d'ailleurs général, c'est le cas de le dire, dans les pays de langue romane. On a constaté le même recul en Italie, en Espagne, au Portugal. Ça est une erreur. La meilleure preuve en est que les Anglo-Saxons, eux, ont gardé au latin et au grec leur place. Alors que le nombre des étudiants dans les facultés des lettres des universités américaines a été multiplié par 1,5, le nombre des étudiants en latin et en grec a été multiplié par 2,5. On me l'a confirmé encore quand, je crois que c'était en 2021, le président Kennedy m'a fait visiter le Harvard University. J'ai demandé au doyen de la faculté des lettres où en était la situation des études grecques et latines. Alors il m'a dit, mais il y a une remontée formidable. Nous avons remarqué que ceux qui avaient fait du grec faisaient de bons businessmen. Donc le calcul fait en France, selon lequel le maintien des études latines et grecques était en opposition avec la modernité, cette erreur est confirmée par les Américains.
Vous saluerez le tam-tam final, j'imagine, radio d'époque. Oui. Mais ce qui m'intéresse évidemment, ce qui peut nous intéresser dans ce propos de Senghor, c'est l'affirmation que la modernité n'est pas contraire au maintien des langues anciennes. C'est un argument qu'ont beaucoup développé ces beaux esprits que sont Jean-Pierre Vernant ou Jacqueline de Romilly dans leur défense du grec et du latin. L'idée au fond que, à côté des langues de service, c'est une formule que j'emprunte à Judée de Lacombe et à Heinz Wissmann, à côté des langues de service, il faut poser les langues de culture. Celles qui ont du recul, qui montrent le langage dans l'énergie de la durée. Et cela est évidemment tout à fait digne de considération comme observation.
En écoutant le président Senghor, en particulier quant à l'importance et à la qualité des études classiques aux États-Unis, il ne faut quand même pas négliger qu'il est introduit à Harvard, qui est l'un des meilleurs départements d'études classiques américaines et probablement au monde. Par contre, dans l'enseignement secondaire américain, le latin a une part encore plus réduite que dans notre Europe. L'argument du businessman, des langues classiques, faisant le bon businessman, est un argument qui a été souvent repris et qui souvent a été mise en œuvre par les défenseurs du latin. Ceci pour montrer la valeur que le latin et le grec avaient, et avaient pour la vie professionnelle future, ont interrogé des hommes qui n'étaient pas des spécialistes, disons, du latin, qui n'avaient pas fait carrière dans les études latines, mais qui étaient soit des hommes politiques, soit des hommes d'affaires, soit de grands scientifiques. Et on leur a demandé, qu'avez-vous tiré de l'enseignement du latin ? Là, ce qui m'a beaucoup frappé, je pense à une enquête qui a été faite en 1969 aux États-Unis, où tout le Gotha du monde politique a été interrogé, président Nixon en tête. Eh bien, tout le monde répond en utilisant les arguments que nous avons précédemment énoncé.
Est-ce qu'on aurait déjà trouvé ça du côté des encyclopédistes, par exemple, au XVIIIe siècle ?
Les encyclopédistes ont eu une position très contrastée à l'égard du latin.
Diderot est d'ailleurs représentatif à cet égard.
Diderot, d'Alembert aussi, ils ne voulaient pas supprimer le latin, et les choses ne se posent pas comme cela en deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais ils voulaient donner une part plus importante à l'apprentissage de la langue française, de la langue maternelle.
Déjà le débat que Edgar Faure poursuit dans le propos que nous avons entendu tout à l'heure.
D'une certaine façon. Dans l'Ambert, il y a un texte très, très intéressant où il constate qu'avec la multiplication des langues vernaculaires, il devient de plus en plus difficile pour les savants, pour les hommes de science, de se tenir au courant et de lire tout ce qui se publie. Et il dit qu'il serait intéressant de restaurer le latin comme une sorte de langue universelle et de convention. Et il ajoute, peut-être avec pessimisme, me direz-vous, il n'y a pas lieu de l'espérer.
Un des aspects importants du propos d'Edgar Faure, c'était qu'il fallait avoir un regard social sur cette grande affaire du latin, et qu'au fond, on pouvait regretter que pendant des décennies, encore un grand sujet de controverse, pendant des décennies, il ait été un instrument de la domination de la bourgeoisie. Ce qu'on trouve reflété dans une célèbre chanson de Jacques Brel, Rosa, en 1962.
Le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prosper qui seront la France de demain. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en sais pas, les auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette, une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête. Il y a des épines au rosa.
Rosa, 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 rosis.
Le latin en Belgique, Françoise Vaquet.
Oui, je vous remercie d'avoir choisi cette chanson de Brel, car je crois que c'est une chanson aussi qui nous replonge dans notre enfance, finalement, comme à la fin de la chanson, il dit « ce temps béni que l'on regrette ». L'apprentissage du latin qui a été aussi, c'est l'autre versant de la chose, un apprentissage difficile, puisque Brel parle des zéros qu'il avait, et on sait ce qu'ils ont fait du latin, qu'un zéro en version relativement vite dans cet apprentissage.
Et 4 points pour les barbarines, 2 points pour les solicines, ça descendait vite. Oui,
oui, oui, et encore les professeurs avaient senti une certaine indulgence, car beaucoup d'expressions étaient dites, soit gauche, mal dit, alors que, en fait, je crois qu'il y a souvent faux sens ou contresens.
Nous dévoilons Françoise Vaquet comme ayant appartenu au groupe de ceux qui étaient favorisés, si vraiment on croit que le latin sert de trébuchet pendant longtemps. Je crois que c'est vrai entre les certaines élites de l'argent et du savoir, et d'autre part les classes populaires.
Bien sûr, et d'ailleurs, Edgar Faure, dans son discours au Parlement, le débat au Parlement, à un moment donné, parle pour les enfants qui faisaient du latin d'héritier de la culture. C'est peut-être un peu excessif, mais pas tellement. Car encore dans les années 50-60, le lycée restait un lycée d'élite.
Ça, il y avait deux voies. Et Mgr Dupanloup, qui était si important pour la tradition des écoles jésuites, déclarait au début de la Troisième République, les classes dirigeantes resteront toujours les classes dirigeantes parce qu'elles savent le latin, à quoi renvoie Paul Valéry deux générations plus tard. On développe ce qui distingue selon des conventions une classe et ce qui permet de se mouvoir ou de manœuvrer dans un cercle restreint, comme des mots de passe, car grec et latin ne sont que des mots de passe. Il n'est pas question de ne pas les savoir. Valéry. Alors évidemment, les arguments inverses qui sont développés par les tenants de l'enseignement du latin, c'est qu'il s'agit simplement de faire profiter les classes populaires de cette chance de connaître les langues mortes anciennes.
Le latin a été, quoi qu'on en dise, un instrument, il faut bien dire le mot, de classe. Je me permettrai de rappeler une expression qui était un usage dans les années 1960, qui était l'expression de descendre en moderne, avec l'expression opposée, monter en classique. On disait descendre en moderne pour un enfant qui, ne réussissant pas dans le classique, était mis dans l'enseignement moderne, qui était naturellement bien moins considéré, et cette descente en moderne était jugée comme une sorte de déchéance. Par contre, des enfants de milieu populaire qui entraient dans l'enseignement secondaire et qui entraient dans l'enseignement sans latin, en moderne, certains de ces enfants brillants, et c'est le cas de Jacques Elias dont nous avons précédemment parlé, eh bien Jacques Elias avait très vite été remarqué par ses professeurs qu'il avait fait monter en classique. Donc je crois que c'est ces deux expressions, descendre en moderne, monter en classique, montrent bien les phénomènes, comment dire, ou d'ascension sociale ou de descente sociale qui se faisaient avec le latin ou sans le latin.
On trouve déjà toute une réflexion sur ces choses, par exemple chez Guizot, qui a été ministre de l'action publique au début de la monarchie de Juillet et qui se soucie d'instaurer à côté de l'enseignement classique un enseignement qui puisse élever les classes dites inférieures sans les laisser dans leur ignorance. Il faut mettre, dit-il, une partie si considérable de nos compatriotes en état d'arriver à un certain développement intellectuel sans lui imposer la nécessité de recourir à l'instruction secondaire si chère à la fois et si périlleuse construite autour du latin et du grec. En effet, ajoute-t-il, pour quelques talents heureux que cette instruction arrache utilement à leurs conditions premières, combien de médiocrité ils contractent des goûts incompatibles avec la condition modeste où il leur faudrait retomber. On n'est pas plus clair.
Non. Et la crainte était, si l'on donnait du latin à des enfants qui, par leur condition sociale, n'auraient pas dû en faire, il y avait la crainte de créer des déclassés. Et le roman de Jules Vallès,
Le Bachelier,
en est l'illustration splendide. Et cet ouvrage est, il y a une dédicace à tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Donc là, le latin avait fait des déclassés. Cela rentre en fait dans une vision de la société qui est longtemps restée une vision profondément, à la fois providentielle, et profondément conservatrice. La Providence avait placé chacun dans une certaine condition dont il ne fallait pas sortir, sous peine de créer des bouleversements nuisibles à la société tout entière. Et cela avait été remarqué dès la fin, enfin, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand on voit des paysans enrichis ou des petits commerçants qui mettent leurs enfants au latin, ce qui a déchaîné une véritable polémique. Et quelqu'un comme Louis-Sébastien Mercier, qui pourtant est un esprit libre, très, très ouvert, condamne cela.
Et comme le chroniqueur de la vie parisienne à la fin de l'Ancien Régime.
Voilà, dans son tableau de Paris, Mercier condamne cela en disant que ces enfants que l'on met au latin ensuite n'auront pas les moyens d'avoir un emploi, comment dire, digne de leurs études, mais ces enfants qui auront nourri certaines illusions, comme il dit, chimériques, ne voudront plus revenir derrière le manche de la charrue ou derrière le comptoir de la boutique, que cela fera des gens, comme nous dirions aujourd'hui, frustrés, des révoltés, avec tous les périls que cela peut comporter pour la société tout entière. Donc, pour ces gens-là, pas de latin.
On comprend que les défenseurs aujourd'hui qui ont tant de motifs de s'employer à illustrer l'enseignement du latin et du grec, que cela soit très soucieux de marquer qu'on peut découpler cette donnée sociale que vous évoquez et l'attrait pour ce type d'instruction.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui un argument qui s'est mis en place et qui est justement de donner du latin non seulement à des enfants de classe modeste, mais aussi à des enfants issus de l'immigration, afin de les enraciner plus fortement dans notre civilisation.
C'est notre côté, nos ancêtres les Gaulois en fait.
Oui, même alors ce seraient nos ancêtres, j'ose dire, les Romains,
oui.
En leur faisant connaître finalement les racines de notre culture.
Un des aspects de ce débat au XVIIe siècle, c'est la controverse autour de la question de savoir s'il faut ce qu'on appelle la querelle des inscriptions,
oui.
Écrire en latin ou écrire en français sur les monuments publics.
Oui, il y a eu une grande querelle des inscriptions dans la deuxième moitié du XVIIe siècle à Paris, à propos d'inscriptions qui devaient être placées sur un arc élevé à la gloire de Louis XIV à la porte Saint-Antoine. Fallait-il mettre
1670.
Fallait-il mettre ces inscriptions en français, le français participer de la gloire aussi du roi de France, ou au contraire, fallait-il les mettre en latin? Les partisans du latin faisaient état des qualités de stabilité de la langue, une langue qui ne varie pas, une langue prestigieuse.
Constante et immuable.
Constante et immuable, éternelle, la langue traditionnelle des inscriptions. Et quand on leur rétorquait que, oui, bien sûr, mais le badaud qui regarderait cette inscription ne comprendrait rien, eh bien on disait que justement il n'avait pas à comprendre, mais qu'il y aurait des savants, des experts, si j'ose dire, qui lui diraient ce qu'il fallait comprendre et qui lui diraient exactement ce qui devait être compris.
On n'est pas très loin de l'idée qu'un certain nombre de prêtres se sont fait longtemps, vous en parliez tout à l'heure, de leur indispensabilité.
Voilà.
C'est
exactement la même idée qui est là derrière, de ce rôle médiateur, si vous voulez, entre le public et le latin.
Le latin sur la porte Saint-Antoine, ou oui. Sur un arc de triomphe, quel qu'il soit, dans l'idée de ceux qui défendaient cette idée, serait propre à assurer aux princes une renommée qui ne s'arrêterait donc pas aux frontières de l'État, ni à la fin de son règne.
Non, une renommée éternelle et universelle.
Il faut dire que ce siècle est aussi celui où on voit finalement le latin hésiter sous le regard des dirigeants, des courtisans de la cour, entre deux États. Il y a un moment où on peut considérer, comme le fait Molière, que c'est l'instrument du pédantisme.
Il y a eu un grand risque, finalement, que le latin connote et connote exclusivement le pédant. Et d'ailleurs, Molière parle des pédants comme des gens à latin.
Et il s'en moque en particulier dans Le malade imaginaire et dans Le médecin malgré lui, puisqu'il montre bien comment, pour les médecins de l'époque, le latin pouvait jouer un rôle, à la fois cacher leur ignorance et affirmer leur autorité sur les malades. Alors vous allez entendre un extrait du médecin malgré lui, acte 2, scène 4, tout à fait significatif.
Entendez-vous le latin?
En aucune façon.
Vous n'entendez point le latin?
Non.
Cabrecias, sarsicram catalanus singulariter nominativo, ec museur la muse, bonus bona bonum, deus sanctus est ne oratio latinas? Esca, oui, quari, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus.
Ah, que n'ai-je étudié?
La bilan que v'là.
Oui, ça est si bien que je n'y entends goutte.
Oh, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie au côté droit où est le cœur, ils sont le poumon, que nous appelons en latin armiam, ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec Nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate, et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine magnité, Écoutez bien ceci, je vous conjure.
Oui.
Ont une certaine malignité qui est causée. Soyez attentifs, s'il vous plaît.
Je le suis.
Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il arrive que c'est la peur. Os savonus neques nequer potarinum quitsa virus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.
Oh, c'est bien dit, notre
homme. Quand la langue aussi bien pendue.
Il ne peut pas mieux raisonner sans doute.
Sous le fouet de la satire, on voit désigner une réalité qui a été chez les médecins, qui est très généralisée.
Oui, qui a été donc l'emploi de mots latins et même parfois un charabia latin que des mots véritablement latins, mais on voit combien ces mots latins avaient de pouvoir sur le malade. Et cet emploi latin a été aussi le fait des, alors là, je ne parle plus de médecins, mais de charlatans. Et les charlatans ont baptisé tous leurs remèdes et élixirs de noms latins. Et ces noms latins ayant, semble-t-il, un pouvoir plus fort sur les malades.
Vous arrivez dans le domaine du psychosomatisme ?
Oui, mais vous savez, c'est ce que l'on voit encore dans le nom dont certains médicaments, tout à fait sérieux, alors, ont été revêtus.
Vous me laissez en citer quelques-uns. Elixir magnum stomacum, pitulé in omnes verbos, je lis toujours à la manière de ma jeunesse, les pilulés radis solis extracté, gremelli pulmonates, panchimagogum et brifugum, ça c'est magnifique. Et puis il y a les élixirs vitae, aurum potabile, aqua celestis. Il y avait même un charlatan, vous les évoquiez, qui en Bretagne en 1786 avait fait imprimer sur une feuille volante qu'il distribuait pour s'attirer de la clientèle. Nolite confidere verbis, sed factis. Ne vous fiez pas aux mots, mais aux faits. C'était juste le contraire en réalité.
Oui.
Il y a aussi un phénomène d'euphémisation à partir du latin. Dans certains cas, il s'agit de protéger les malades contre des vérités trop brutales.
Oui. Et cela, je crois que c'est très intéressant, même ça mènerait toute une réflexion sur le pouvoir, qui n'est pas simplement la domination, comme beaucoup d'analyses actuelles le proposent, c'est exact, mais aussi le pouvoir, c'est la protection de celui qui a le pouvoir, il a le devoir
protection
de
du
protéger
faible.
le faible. Et l'emploi, en particulier par les médecins, de certains mots ou de certaines expressions souvent de malades atteints de maladies graves à cette fonction.
Même euphémisation dans le domaine de la sexualité,
oui.
Où on peut dire des choses, y compris d'ailleurs d'un point de vue scientifique, des choses que la morale ordinaire au 18e ou 19e siècle interdit de formuler dans une langue vernaculaire.
Oui, la médecine légale s'est pendant longtemps écrite en latin, bien que ses écrits ne circulent qu'entre médecins. Mais, comme il disait, certaines réalités sont telles que nous préférons passer au latin. Il y avait une sorte donc de mise à distance par rapport à certaines réalités jugées choquantes dans le milieu même des médecins.
Le célèbre médecin Tissot, qui était obsédé par l'onanisme, dans son livre célèbre, tout à coup passe au latin,
oui,
quand il n'arrive pas à exprimer une donnée épouvantable.
Mais même quelqu'un comme Freud, qui pourtant était assez libéré par rapport aux choses sexuelles, lorsqu'il raconte un de ses rêves, ce rêve où il a vu sa mère nue, eh bien, dit « mère nue, matrem nodam », là il emploie le latin.
Bien avant Freud, on voit le professeur Tardieu, qui a été doyen de la faculté de médecine de Paris et qui publie un livre intitulé « Études médico-légales sur les attentats aux mœurs », où il parle de la pédérastie, le vocabulaire de l'époque. Il explique à propos de certaines variétés de pédérastes qu'il est obligé de passer au latin. « Je reculerais devant ces détails immondes si l'on ne me permettait pas de les cacher sous une courte périphrase latine.
Oui. »
Françoise Vaquet, je voudrais que nous terminions sur ce qu'on peut appeler la nostalgie de l'universel. Le rêve que beaucoup ont pu avoir, que le latin serve de langue commune pour éviter Babel. Et pour ouvrir ce dernier moment de notre conversation, écoutons un poème de Baudelaire. On ne sait pas toujours qu'il y a dans Les Fleurs du Mal un poème en latin, qui s'appelle Franciscae Maiae, modiste, érudite et dévote. C'est Juliette qui a mis en musique ce poème.
Non, delicata, o femmina delicata, per consoluntur peccata.
Je vous traduis le début de ce poème de Baudelaire qui montre, au demeurant, à quel point un homme de sa génération pouvait avoir une intimité avec le latin. Novis te cantabo cordis, o novel etum cod ludis in solitudine cordis, esto certis implicata o femina delicata per quam solvontur peccata. Autrement dit, je te chanterai sur des cordes nouvelles, ma bichette qui t'amuse, dans la solitude de mon cœur, sois ornée de guirlandes, ô femme délicieuse par qui les péchés sont remis.
Ce texte est tout à fait intéressant car il nous rappelle que des écrivains que nous considérons essentiellement comme des écrivains français ont été formés sur une base latine et ont aussi été des poètes latins. Quelqu'un comme Rimbaud a écrit aussi une poésie latine, la même chose pour Musset, etc. Cette permanence, en quelque sorte, du latin que l'on voit dans ces années-là, peut expliquer aussi pourquoi, alors que les langues vernaculaires se multipliaient et se diffusaient, alors que naissaient et se multipliaient les grands colloques internationaux, que les populations scientifiques se brassaient davantage, on a senti le besoin, devant cette montée, cette explosion de vernaculaire, d'avoir aussi une langue commune, langue universelle. Et cette langue, cela a été, bon, il y a eu des projets en ce sens, de restaurer le latin comme langue de la communication scientifique. Peut-être comme une langue tierce en quelque sorte, comme on dit peut-être avec un certain mépris parfois, une langue de service, mais une langue dont on avait besoin. Car il ne faut pas oublier que ces années-là, qui sont des années pour la fin du 19e siècle, début 20e, marquées par un fort internationalisme, sont aussi des années marquées par un fort nationalisme qui aurait fait qu'un Français n'aurait jamais parlé allemand ou un Allemand parlait français.
Encore que les Français, nation vaincue, ont beaucoup appris l'allemand. Il est frappant de voir que comme un homme comme Ferdinand Brunetière, célèbre critique de la fin du 19e siècle, pouvait défendre cette idée. Il écrivait, il y a des langues qui chantent, il y en a qui dessinent et qui peignent. Le latin grave, et ce qu'il grave est ineffaçable. On pourrait dire que ce qui n'est pas universel ou éternel n'est pas latin. Le Rivarol avait écrit un siècle plus tôt, ce qui n'est pas clair n'est pas français, n'est pas français. Il faut dire que toutes ces générations de savants savaient le latin au point qu'on leur demandait encore, pour devenir professeur d'université, de faire une seconde thèse en latin. Jaurès a fait sa seconde thèse en latin.
Jusqu'en 1903, la thèse latine a été obligatoire à côté de la thèse française.
Alors ce rêve se développe dans ces années-là, avant 1914. Pourquoi ne prendrait-on pas le latin? Il y a une nouvelle ultérieure de Borges qui s'appelle Le Congrès, qui imagine une quinzaine d'hommes qui se réuniraient à Buenos Aires au début du XXe siècle pour créer un congrès du monde, et ils songent naturellement à utiliser le latin. Certains défenseurs du latin, cela dit, ne regrettent pas qu'il n'en soit pas allé ainsi, car ils pensent que le latin, langue de culture, serait devenu une langue de service, exactement. Et par là même aurait été en quelque sorte rabougri.
Oui, exactement, parce que si l'on avait employé le latin comme langue, disons, de communication internationale, se posait toute une série de problèmes d'ordre linguistique. Soit on gardait le latin dans toute sa pureté, mais comment dire certaines réalités contemporaines, soit l'on forgeait des néologismes et donc la pureté du latin aussi disparaissait, soit on s'en tirait avec des périphrases alambiquées, mais qui ne sont pas la façon la plus simple de communiquer, surtout par exemple pour des scientifiques.
Cette dégradation potentielle a été celle du grec d'ailleurs à la période hellénistique, quand elle est devenue la langue commune. Oui. Tout autour de la Méditerranée. J'espère que nous aurons donné à nos auditeurs et nos auditrices le goût de rouvrir leur grammaire latine et d'apprendre le latin, ce qui est possible et enrichissant à n'importe quel âge. Françoise Vaquet, votre livre s'appelle « Le latin ou l'empire d'un signe, 16e, 20e siècle ». Il est paru à la fin du siècle précédent, 1998, chez Albin Michel. Vous avez publié aussi, Françoise Vaquet, un autre livre fort instructif qui s'appelle « Parler comme un livre ». L'oralité et le savoir, 16e, 20e siècle, chez Albin Michel, en 2003. J'ai signalé le prix du livre de Pierre Judet de Lacombe et Heinz Wissmann, L'avenir des langues, repenser les humanités, paru en 2004 chez Serre. Ça a été la manière de, pour ces deux, les fruits d'un rapport que leur avait commandé Jack Lang en 2002. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission pendant un mois sur le site internet de France Culture, et si vous le souhaitez, la télécharger pour balado diffusion. Samedi prochain, nous parlerons de l'islam en réfléchissant à la dissidence des marges. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'actualité de cette question, que nous traiterons avec Gabriel Martinez-Gros, et ce sera en direct de l'Institut du Monde Arabe, où France Culture sera décentralisée à l'occasion du 20e anniversaire de cette institution.